Father, we love you, Lord, and we thank you this morning for the beauty of your word, for the joy of contemplating your glory in your word. Seigneur, nous t'aimons et nous te remercions ce matin pour la beauté de ta parole. Nous remercions pour l'honneur et la grâce qui nous est faite de contempler ta gloire dans ta parole et de découvrir tes bienfaits à notre égard dans ta parole et de découvrir la vie merveilleuse que tu réserves à tes enfants et de découvrir, Seigneur, le vademécum de ton royaume, de découvrir le mode d'emploi, de découvrir la feuille de route, de découvrir la manière dont nous, en tant qu'enfants de Dieu, revêtus d'habits royaux immérités, rachetés, réconciliés avec Dieu, devons vivre nos vies sur terre pour vivre en accord pleinement avec tes desseins et accomplir notre destinée, accomplir ta volonté dans notre génération. Éternel des armées, nous prions ce matin pour que tu saisis chacun de nos cœurs et que comme jamais auparavant tu mettes en nous le cri de cœur, ce cri pour dire quant à moi j'accomplirai la volonté de l'Éternel, ce cri de cœur de pour faire ce qui plaît à Dieu et vivre selon les desseins de Dieu. Et nous te demandons ce matin, alors que cette parole est prêchée, que ta puissance soit libérée pour nous débarrasser du carcan dans lequel nous vivons, pour nous débarrasser des idées préconçues, pour nous débarrasser de la mauvaise configuration que nous avons subie sur la terre, pour nous débarrasser complètement de tout ce qui a été inséré en nous, tout ce que nous avons accepté en nous qui est contraire à ta parole, pour complètement enlever de nos vies des schémas de pensée, des systèmes de vie, des priorités, des prérogatives que nous nous sommes affectés qui ne viennent pas de l'Éternel. Papa, ouvre les yeux des uns et des autres aujourd'hui, que les écailles tombent, que la cécité disparaisse, que la dureté de cœur disparaisse, que ta puissance soit libérée aujourd'hui pour briser la dureté de nos cœurs, pour nous libérer de l'arrogance et de l'orgueil qui nous ficelle et qui nous rend prisonniers, pour complètement briser tout ce qui nous empêche, Éternel, d'avoir ton regard et ta vision, de désirer les choses de Dieu, de désirer de vivre conformément au dessein de Dieu. Seigneur, délivre ton peuple aujourd'hui du matérialisme, délivre ton peuple aujourd'hui de l'hypocrisie, délivre ton peuple aujourd'hui de la crainte du monde, délivre ton peuple aujourd'hui de l'amour du monde, délivre ton peuple aujourd'hui de toutes les attitudes négatives qui nous empêchent d'adopter la manière de voir de Dieu et de configurer nos vies selon le cœur de Père. Délivre-nous, Éternel, de la paresse, de la stupidité qui nous empêche de comprendre que c'est dans notre intérêt de suivre le schéma de Dieu pour nos vies. Toi qui as tout donné pour venir nous sauver, combien même est-ce que nous devrions saisir le fait que tout ce que tu nous dis est pour notre bien. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui de délivrer ton peuple, d'ouvrir nos yeux, que ta puissance accompagne la prédication de cette parole, non pas simplement dans la manière dont elle est donnée, mais aussi dans l'impact dans nos vies et dans nos cœurs. Notre Dieu, nous te remercions. Tu envoyas ta parole et tu les guéris. Aujourd'hui, ta parole, tu nous l'envoies et tu guéris. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais vous inviter chacun de nous à écouter attentivement cette parole, parce qu'elle va changer vos vies. Je vous invite à vous asseoir. Faites un très grand sourire à la personne à côté de vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites à votre voisin, je te surveille. Parce que je tiens à ce que cette parole transforme ta vie. Donc, si je te vois piquer du nez, je vais te pincer. Glory to God. Vous savez, il y a beaucoup de gens, lorsqu'on enseigne sur la guérison, qui dorment. Et le jour où ils tombent malades, ça devient du désespoir. Lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, il faut être très attentif. Parce que c'est là où Dieu change nos vies. Dieu, c'est extraordinaire de savoir. Lorsqu'on est à l'écoute de Dieu, on se rend compte que rien ne nous arrive sans que Dieu nous ait préparé. Mais parfois, nous ne sommes pas attentifs. Et s'il y a un endroit où nous devons être très attentifs, c'est lorsque la parole de Dieu est donnée. Glory to God. Nous sommes conscients aujourd'hui du fait que Dieu parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient du fait que Dieu parle? Alléluia. Je veux vous entendre. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Vous allez répondre. Isn't God good? Isn't God good? Isn't God good? Soldat, est-ce que Dieu est bon? Alléluia. Yes, nous sommes des soldats. Nous ne devons jamais l'oublier. Je prends plaisir à porter mon t-shirt au centre commercial. Yes, nous sommes des soldats pour Christ. Merci Père pour ta parole. Elle va changer nos vies ce matin. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin. Si je ne vous dis que la moitié, je vais écrire le reste. Mais vous aurez tout le message. We serve a very good God. Ma prière constamment, c'est que Dieu ouvre mes yeux. Ma prière constamment, c'est que je le vois. Je ne veux pas être privé de quoi que ce soit. Toute la connaissance de Dieu qui est possible pour un être humain d'avoir, je veux. Je ne veux pas avoir juste suffisamment pour vivre correctement. Je ne veux pas vivre correctement. Je veux vivre une vie extraordinaire. Je veux avoir des réactions extraordinaires. Je veux avoir des pensées extraordinaires. Je veux avoir des paroles extraordinaires. Je veux qu'à n'importe quel moment, quand j'ouvre ma bouche, la grâce en sorte. Et ça vient lorsqu'on on passe sa vie à chercher la connaissance de Dieu. Et il nous remplit à un point où c'est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Je suis reconnaissant au Seigneur pour la capacité de le louer en d'autres langues. Parce que si nous devions nous limiter à notre imagination ou à notre entendement plutôt, nous n'irions pas très loin. Notre Dieu est merveilleux. Dieu pourvoit toujours. Nous sommes en train de parler de ce que nous faisons, nos actions. PDF, penser, dire, faire. Révolution mentale, révolution verbale, révolution dans le comportement. Et nous sommes invités à être révolutionnés dans notre comportement. Notre comportement doit changer. Lorsque nous venons à Christ, notre manière de fonctionner doit changer. Notre manière de penser doit changer. Notre manière de parler doit changer. Notre manière d'agir doit changer, les choses que nous faisons et les choses que nous ne faisons pas. Et c'est important de savoir ceci. C'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Notez ceci. Il y a beaucoup de gens qui se prennent au sérieux, mais qui ne prennent pas leur vie au sérieux. Nous devons faire l'inverse. Nous ne devons pas nous prendre au sérieux, mais nous devons prendre nos vies au sérieux. Votre vie doit être un chef-d'œuvre entre les mains de l'Éternel. Nous sommes l'argile. Et lui, il est le potier. Et Dieu veut constamment nous façonner. Nous savons aussi, dans les parties précédentes de ce message, nous avons vu le fait que chaque action est une semence. Vrai ou faux? Vous savez, je reviens de Londres. Et à Londres, j'ai été en compagnie des chrétiens nigérians. Et j'ai fait la remarque à Florentine. Tu vois comment ils sont? Quand ton serviteur parle, ils répondent. Avant qu'on ne finisse de dire Amen, ils ont dit Amen. On n'a pas besoin de leur dire 3 ou 4 fois, ils sont dedans. Alors, faites-moi plaisir. Glory to God.
Amen.
Glory to God.
Amen.
Glory to God.
Amen.
C'est une réaction immédiate. Dès que vous entendez, c'est Amen. Amen. On n'a pas besoin de le répéter 3 fois. Nous servons le même Dieu. Nous avons reçu la même grâce.
Amen.
Les francophones ont reçu la même grâce.
Amen.
Il n'y a que les anglophones qui ont reçu la grâce de Dieu.
Non.
Alors, ils ont le même zèle dans l'adoration. Ils ont le même zèle dans la réponse lorsqu'on glorifie le Seigneur. Lorsque vous entendez la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu répond à ce zèle. Dieu répond à cet engouement que nous avons pour lui. Nous ne sommes pas des gens passifs. Parle-moi. Instruis-moi. Non, nous répondons, nous recevons, nous acceptons. Et nous manifestons notre présence, notre accord et notre volonté. Et cela participe à la puissance de ce qui est manifesté dans nos vies. Glory to God.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Merci Seigneur. Nos actions sont une semence. Ce que nous faisons
aujourd'hui, nous moissonnons demain. Et dans la mesure où nous comprenons cela, nous comprenons aussi ceci. Nous comprenons que nous devons configurer notre demain aujourd'hui. Nous ne devons pas simplement voir ce que nous allons moissonner. Nous devons commencer à semer ce que nous voulons moissonner. Nous devons cartographier nos actions quotidiennes de telle sorte que nous pouvons prévoir ce qui va nous arriver demain. Parce que nous avons semé ce qu'il fallait semer aujourd'hui. Il y a un passage dans la parole de Dieu que j'aime beaucoup. Je vais vous lire beaucoup de versets aujourd'hui et je vais vous inviter à regarder rapidement dans vos Bibles et être attentifs quand je commence à les lire. La parole de Dieu va nous parler aujourd'hui. Nous parlons de ce que nous faisons, n'est-ce pas? La dernière fois, je vous ai dit que nous devons avoir des actions quotidiennes. Nous devons dessiner notre quotidien. Chaque jour doit être dessiné. Chaque jour ne doit pas être laissé au hasard. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous allons vivre demain. Ce qui veut dire que je dois décider à quoi va ressembler chacun de mes jours. Je vous ai donné l'exemple. Nous avons vu la vision, la mission, les objectifs de vie, le plan d'action, tout cela. Et que tout cela s'obtient dans la présence de Dieu. Et j'avais terminé en vous expliquant le fait qu'il y a certaines actions quotidiennes que nous mettons en place pour arriver à notre objectif. Et l'exemple que je vous ai donné, c'est le fait que Dieu m'a amené dans une saison d'écriture. Et pour y arriver, ce n'est pas une fois toutes les deux semaines, quand j'ai le feeling. Parce que nous ne fonctionnons pas sur la base du principe du plaisir. Nous fonctionnons sous la base du principe de l'objectif. Ce qu'on appelle en anglais, purpose principle. Ce n'est pas le pleasure principle, c'est le purpose principle. Vous voyez, l'épée, ça rime en anglais. Donc, le principe qui régit nos actions quotidiennes, ce n'est pas le plaisir. Je ne fais pas les choses parce que ça me fait plaisir. Je fais les choses parce que ça me parvient d'arriver à mon objectif. Lorsque vous saisissez ce principe, ça va complètement changer vos vies. Parce que la plupart des gens, ils ne font que des choses que parce que ça leur fait plaisir. Et ce dont ils n'ont pas plaisir en ce moment, ils ne le font pas. Même si c'est nécessaire pour leur vie. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'exemple que je vous ai donné, c'est le fait que j'ai décidé que chaque jour, je vais écrire quelque chose. Et nous devons, en fonction de ce que nous sommes appelés à être et à faire, avoir des choses qui font partie de nos actions quotidiennes. Mais nous avons aussi parlé du fait qu'il y a des actions qui sont à haut rendement. Est-ce que quelqu'un se souvient de certaines de ces actions à haut rendement? La prière. La communication pour la transformation. En principe, à haut rendement. Dans Colossiens chapitre 1, au verset 9, regardez avec moi dans Colossiens chapitre 1, au verset 9, Glory to God. Est-ce que vous y êtes? Faites-moi signe. La première personne qui arrive, on va lire. Colossiens chapitre 1 au verset 9. Personne n'est encore arrivé à Colossiens chapitre 1 au verset 9. Ouf, merci Seigneur. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis. Voici la prière que fait Paul. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Pas uniquement sa volonté quant à savoir si c'est Pierre ou Philippe ou Jean, ou si c'est Marine ou la brunette ou la blonde. Parce que c'est là où les gens veulent connaître la volonté de Dieu. Pour le reste, ils ne font que ce qu'ils ont envie de faire. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ça, c'est la prière que Paul fait. Et c'est la prière que chacun de nous doit faire continuellement. Je veux être rempli de la connaissance de ta volonté. Rempli de la connaissance de la volonté de Dieu veut dire quoi? Veut dire, je veux savoir tout ce que je dois savoir. Tout, dans tous les domaines concernant toute ma vie, toute mon existence, tout ce que Dieu veut. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Et écoutez ce qui va se passer quand on est rempli de la connaissance de sa volonté au verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Dites bonnes œuvres. bonnes œuvres. Bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, ce n'est pas le fait d'aller donner en vêtements aux pauvres. Les bonnes œuvres dans la parole de Dieu, ce sont nos actions qui sont bonnes et qui correspondent à la volonté de Dieu. C'est tout. C'est tout. Ah, mais moi, je donne des vêtements au Secours catholique. J'ai de bonnes œuvres. Non. Mes actions, toutes mes actions qui correspondent à la volonté de Dieu. Ce que je fais qui correspond à la volonté de Dieu. Donc, portons des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissons par la connaissance de Dieu. Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Le désir de Dieu pour nous, c'est que nos actions correspondent à ses désirs. C'est que les choses que nous faisons, les choses que nous disons, les choses que nous pensons, soient conformes à ce que Dieu veut. Et il y a un certain nombre de choses dont il faut tenir compte. C'est que nos actions quotidiennes expriment notre engagement et notre désir. Et nos actions quotidiennes aussi renforcent notre engagement et renforcent notre désir. Vous me suivez? Et que nos actions quotidiennes, lorsque nous commençons à définir à quoi va ressembler chaque jour de nos vies, doivent tenir compte des éléments spirituels, matériels, doivent tenir compte des actions que nous mettons en place en notre faveur, en faveur des autres et en faveur de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Parfois, les gens ont des plans très, très rigoureux pour leur vie, mais ces plans n'incluent que eux. Nous ne sommes pas faits simplement pour être bénis, nous sommes faits pour être une bénédiction. Et si nous n'avons pas encore commencé à être une bénédiction, nous n'avons pas encore commencé à vivre. La vraie joie de l'existence, c'est de donner. C'est que nos vies servent à édifier, à bénir, à amener la multiplication et la grandeur chez les autres. Posez la question à votre voisin, qui est béni par ta vie? Et demandez à l'autre voisin, qui est béni par tes actions? Est-ce que tu peux énumérer des vies qui ont été changées à cause de toi? Et donc, ce n'est pas le principe du plaisir, c'est le principe d'une vision, d'un objectif ferme qui doit guider le choix de nos actions, qui doit guider l'organisation de nos journées. Et pourquoi nous parlons de l'organisation de nos journées? Parce que notre vie est constituée de journées. Et que souvent, nous voulons accomplir des choses qui ne figurent même pas dans nos journées. Mais nous nous attendons à ce qu'elles arrivent parce que Dieu est grand. Mais elles n'arrivent pas, pas parce que Dieu n'est pas grand, mais parce que nous n'avons pas mis en place les actions nécessaires pour être en coopération avec Dieu. Rappelez-vous, les cieux appartiennent à l'Éternel et la terre, il a donné au Fils de l'homme. Il nous a donné à nous la capacité de régner sur la terre, d'amener les choses à l'existence sur la terre, de faire en sorte que les situations existent et les situations sont créées et les circonstances existent et sont créées qui permettent à ce que l'action de Dieu puisse fleurir. Il en va de même pour l'Église que pour votre vie, que pour la société de façon générale. Rien n'est changé si un homme, un être humain n'intervient pas. Tout ce qui existe aujourd'hui est le fruit de l'action de quelqu'un. Lorsque vous êtes assis sur cette chaise existe, non pas simplement parce que quelqu'un a prié et Dieu l'a fait, descendre du ciel, mais parce que quelqu'un a peut-être prié, qui a demandé la sagesse et même, il n'a peut-être même pas prié, mais il a quand même reçu une sagesse de Dieu et il a agi avec ses mains, il a amené quelque chose à l'existence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qui n'existe pas aujourd'hui qui devrait exister si vous deviez commencer à faire ce que vous êtes censé faire? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans le cœur de Dieu que Dieu veut télécharger dans un être humain et qui n'est pas encore dans le monde parce que vous n'avez pas fait votre part? N'est-ce pas? Comment est-ce que les enfants naissent? Parce qu'il y a une action. Vous êtes d'accord? Il y a une action. Vous avez déjà vu des gens qui ont réussi? Vous avez déjà vu des gens qui ont réussi à amener un enfant au monde sans rien faire? Nous ne parlons pas de Jésus. Sans rien faire, juste là, à la maison. C'est comme ça que les enfants sont venus au monde. Vous êtes restés au salon pour dire, on aimerait bien avoir les enfants. Pouf, on a des enfants. Oh, que Dieu est grand. Il y a une action. Et là, nous l'avons compris. Mais toute chose que Dieu amène à l'existence sur la terre, il y a une action humaine. Parfois, il y a une action humaine qui consiste simplement à prier et à appeler à l'existence. Et cette action-là, nous comprenons un petit peu. Et nous pensons que c'est tout ce qu'il y a. N'est-ce pas? Mais nous savons aussi que lorsque nous voulons devenir médecin, il ne suffit pas de dire « Seigneur, que la médecine soit !» Et il fut. Wow! Je me présente à la pitié salpêtrière. J'ai prié. Dieu a exaucé. Je suis médecin. C'est comme ça que ça se passe. Alors pourquoi nous pensons que les autres choses que Dieu va faire dans nos vies vont se passer simplement parce que Dieu est bon et que nous ne faisons strictement rien? Dieu est bon et nous invite à agir sur la terre. Je vais agir sur la terre. Je vais vous demander de regarder avec moi dans... Je vais vous lire tout simplement ce psaume, parce que je n'ai pas mis la référence, je ne sais pas pourquoi. Mais il est bon et vous allez écouter attentivement. Nous avons des schémas, nous devons avoir un schéma de vie. C'est bien ça? Mais quand j'ai mis ça dans mes notes, j'avais éliminé le C. Et je me disais, c'est quoi ce truc schéma? Oh. Devons avoir un schéma de vie, un plan pour nos vies au jour le jour. Des choses que nous faisons chaque jour. Et la première chose que nous devons faire chaque jour, c'est établir des liens de communication. Les liens de communication avec la seule personne qui sait tout ce dont nous avons besoin de savoir. Ce que nous avons besoin de savoir. Qui est? Certains ne sont pas convaincus. Devons établir des liens de communication avec la seule personne qui sait tout ce que nous avons besoin de savoir. Et la première, il y a quatre raisons que je vais évoquer pour vous aujourd'hui. Je vous les mets déjà à l'écran. Vous pouvez déjà dormir, vous saurez tout. Ah, ce que l'on appelle en anglais « empowerment ». Je pars du principe que la majorité des gens vont faire ce qu'ils sont censés faire s'ils comprennent l'importance de la chose. Ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est l'importance d'établir des liens de communication avec Dieu tous les jours pour arriver à ce pour lequel nous sommes sur la terre, pour réussir nos vies, pour vivre une existence qui est conforme au plan de Dieu, pour accomplir notre destinée, pour devenir ce que nous sommes censés devenir, pour arriver après notre vie sur terre devant Dieu et ne pas avoir honte de quoi que ce soit. Pourquoi c'est si important que cela? Pourquoi c'est si important d'avoir des liens de communication avec Dieu tous les jours? Pourquoi c'est si important d'avoir une communication très forte avec Dieu? La première chose que j'ai indiquée à l'écran, c'est l'intimité. La parole de Dieu nous dit ceci. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. » Écoutez bien ces paroles. « Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi. » Comme une terre aride, desséchée et sans eau. Ça, c'est mon cœur qui languit après Dieu, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire, car ton amour vaut bien mieux que la vie. Il n'est pas en train de parler à sa femme. Il n'est pas en train de parler à la fille qu'il est en train de courtiser, qu'il est en train d'essayer d'embobiner pour sortir avec lui. Parce que nous savons dire de telles choses dans de telles circonstances. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà reçu des lettres d'amour? Personne n'a reçu. On n'écrit plus de lettres ou on n'est plus aimé? Je peux vous déclamer les lettres d'amour que l'on recevait quand on était jeune fille. Les garçons étaient très inspirés. Très, très inspirés. Mais... Quand vous écoutez, vous méditez ces paroles, il est en train de parler à Dieu. Cette intimité si profonde, cet amour si réel, ce n'est pas simplement « Oh, l'éternel grand Seigneur, mon Père, alléluia, amen. » Il est en train de dire « Mon amour, ton amour vaut bien mieux que la vie. Ton amour vaut mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. » Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin. On sait qu'il y a des gens qui aiment les bons festins ici. Le corps sera rassasi de mets gras succulents. Et je crierai de joie en chantant tes louanges. Et non seulement il exprime le fait qu'il veut être dans le sanctuaire, il veut contempler Dieu, il veut admirer sa puissance et sa gloire. Est-ce qu'il vous arrive de penser que vous voulez admirer Dieu? L'admirer. Avoir de tels sentiments pour le Seigneur. J'ai envie de t'admirer, te contempler. Waouh! M'émerveiller de toi. Et si vous n'avez pas de tels sentiments, commencez à vous dire que ouais, demain, Seigneur, je me lève. Je viens t'admirer. Je viens t'admirer. Et c'est ça la relation que nous sommes censés avoir avec Dieu. Mon cœur sera comblé. Et non seulement ça, il y a cette admiration, mais lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. C'est à ce point que Dieu lui est précieux. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure, écoutez, attaché fidèlement à toi. Et ta puissance me soutient. Je demeure fidèlement attaché à toi. Et ta puissance me soutient. En réalité, l'homme a une seule destination. Et sa destination, c'est Dieu. Nous sommes faits pour lui. Et nos vies ne prennent de sens que lorsque réellement, elles sont en symbiose avec lui. C'est important de le saisir. Être né de nouveau, ce n'est pas simplement, ah bon, maintenant je vais à l'église ou je suis sauvé, tout ça c'est bien. Non, c'est être amené dans l'intimité du Père. Cette relation initiale que Dieu a prévue pour l'homme, pour avoir avec l'homme, cette relation d'amour, c'est pour cela que les hommes cherchent l'amour. Parce que nous sommes faits pour être aimés. Nous sommes faits pour être aimés, pour être choyés. Et nous sommes faits pour être aimés et choyés. Dieu nous aime et Dieu veut nous choyer. Mais beaucoup ne s'approchent pas suffisamment de lui pour être choyés. Et donc vont chercher partout où ils peuvent être choyés. C'est le problème des filles qui sont toujours en train de passer d'une relation désastreuse à une autre parce qu'elles cherchent l'amour et elles veulent être choyées. Mais quand quelqu'un entre dans l'intimité du Père et passe du temps tous les jours à exprimer son amour, à recevoir son amour, il vit comblé. Dites comblé. 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 Parce que personne ne peut vous aimer comme Dieu peut vous aimer. Personne ne peut vous combler comme Dieu peut vous combler. Et c'est la raison pour laquelle souvent il y a beaucoup de frustration après le mariage. Alors pour celles qui pensent qu'il y a la frustration avant, il y a aussi beaucoup après. Parce que c'est ce désir d'être aimé. Les femmes reportent sur ce prince charmant. Et il va m'aimer, c'est bon, il m'aime, je vais être comblé. Et après le mariage, on découvre qu'on n'est toujours pas comblé. Parce qu'il y a quelque chose en nous que Dieu seul peut combler. Et quel que soit le degré de l'amour, on sent toujours, il y a quelque chose. Et parfois, on en veut à l'autre. Oui, c'est parce qu'il arrive tout le temps en retard, ça n'a rien à voir. Oui, c'est parce qu'il se plaint parce que quand je brûle la casserole, mais ça n'a rien à voir. Oui, c'est parce qu'il me dit pas 10 fois par jour qu'il m'aime, ça n'a rien à voir. Ce n'est franchement pas de sa faute. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas cherché l'amour, on devrait le chercher. Est-ce que vous me suivez, mesdames? Parce que souvent, les dames sont un peu plus affectées par cela que les hommes. Et il y a une insuffisance si on pense que c'est la faute de l'autre. S'il était un peu plus comme ça, si elle était un peu plus comme ça, tu n'es pas assez câline. Tu vois mon ami Fred, son épouse est tout le temps avec les deux, elle l'entoure constamment, elle l'encourage sans cesse. Dès qu'il dit quelque chose, oh mon amour mon bien-aimé, tu vois, oh mon amour mon bien-aimé, oh mon amour mon bien-aimé. Mais toi, tu me dis, oui, mais il faut corriger ça. Pourquoi il faut tout le temps que tu me corriges? Mais ce n'est pas elle, c'est que tu n'as pas cherché l'amour là où tu devrais chercher l'amour. Et on en veut à l'autre, c'est de sa faute. Oui, c'est ça aussi. Oui, mais avant, tu étais plus comme ça. Non, ce n'est pas parce qu'il était différent avant ou qu'elle était différente avant. C'est toi qui voyais les choses avant. Tu imaginais des choses qui n'existaient pas. Glory to God. Glory to God. Allez, laissez-le un peu tranquille. Laissez-la un peu tranquille. Regardez le Seigneur. Alléluia. Vous savez, si nous étions plus impliqués dans cette relation d'amour avec Dieu, dans cette intimité avec Dieu, on aura des mariages extraordinaires dans l'église. On aura des mariages extraordinaires. Parce qu'on ne peut pas mettre sur l'autre le poids de notre bonheur. On ne peut pas imposer à l'autre de nous rendre heureux. Je ne me sens pas aimée. Tu ne l'as dit que 10 fois aujourd'hui. Je me souviens de la dernière fois que tu m'as dit que tu m'aimes. C'était il y a 2 ans. Il dit, mais comment ça? Je suis là tous les jours, je ne cherche pas d'autres femmes, je t'aime, je suis là, je fais ce que tu veux, tu me dis que, oui, mais il faut me le dire. Oui, mais est-ce que tu vois le bijou que Fred a acheté à sa femme? Ça n'a rien à voir avec, dites-le, ça n'a rien à voir avec les bijoux. Ça n'a rien à voir avec les câlins. Non, 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 non. Évidemment, il faut aimer son mari, il faut aimer sa femme, il faut aimer son fiancé, mais il faut surtout aimer Dieu. Il faut surtout aimer Dieu. Et cette relation d'amour avec Dieu s'entretient tous les jours. Tous les jours, dites tous les jours. Tous les jours, nous sommes faits pour lui. Dieu est notre destination. Il est notre source, il est notre destination, il est notre présent, il est notre futur. Et nous sommes faits pour lui. Donc, une vie qui n'est pas vécue en harmonie avec Dieu, dans la communion avec Dieu, c'est une vie qui n'est pas vécue comme elle devrait être vécue. Nous ne pouvons pas passer à côté. Quelque chose que nous accomplissons sur la terre, si nous ne vivons pas cette communion étroite avec Dieu tous les jours, nous sommes passés à côté de quelque chose de très important. Dieu est notre destination. La réalisation majeure de nos vies, c'est la construction de notre relation avec Dieu. Ça, c'est la réalisation majeure de nos vies. Quand nous comprenons cela, nous cessons de voir la prière comme une tâche que Dieu nous impose. Nous comprenons que les lignes de communication qu'il a ouvertes, c'est une grâce extraordinaire. Parce qu'avant, les gens ne pouvaient pas venir si librement envers Dieu. Et maintenant, la porte nous a été ouverte. Le chemin d'accès nous a été ouvert. Nous avons un accès, nous avons un badge qui n'expire jamais. Il y a des endroits où je suis obligée de renouveler mon badge tous les ans. Et il y a même un endroit tous les 3 mois, il faut encore renouveler le badge. Mais c'est intéressant. Dieu m'a jamais dit que mon badge était périmé. Non. Non, il n'y a pas de portique par lesquels je n'ai pas pu passer parce que il faut renouveler le badge. Il ne me demande même pas de placer ma valise sur un tapis roulant pour qu'il vérifie avant que je ne puisse avoir accès à sa présence. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que chacun de nous saisisse cela. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous venons de Dieu. Nous irons envers Dieu. Et sur terre, nous devons vivre pour Dieu. Et notre intimité avec Dieu, c'est la chose majeure qui détermine, oui ou non, la réussite de notre existence. Je peux accomplir tout ce que je veux. Je peux bâtir tout ce que je veux. Mais si je ne vis pas cette intimité avec Dieu, je suis passé à côté de l'essentiel. Et quand je comprends cela, je me dis, il n'y a pas un jour où je ne vais pas être dans sa présence. Il n'y a pas un jour où je ne vais pas simplement venir pour dire, mon papa, je viens admirer ta beauté. Je viens contempler ta magnificence. Je ne peux pas, sous la nouvelle alliance, ressentir des choses moins fortes pour Dieu que ce que David a ressenti sous l'ancienne alliance, mais quand même. Quand même. Mais quand même. Et le sang de Jésus. Et la liberté d'accès, et la puissance du Saint-Esprit, la révélation que l'Esprit donne, celui qui nous aide à prier quand nous ne savons même pas quoi dire. Oui, mais moi, je ne sais pas comment adorer, mais l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Et parfois, il suffit juste de décider de se présenter. Mais il faut que chaque enfant de Dieu ait un objectif principal dans sa vie, c'est la percée dans la prière. Il n'est pas permis de continuer après, année après année. Oui, mais moi, j'ai du mal à prier. C'est une honte. Dites, c'est une honte. C'est une honte. Et c'est la démonstration par excellence de la paresse spirituelle. Ce n'est pas quelque chose dont on devrait vous plaindre. C'est la preuve que vous avez été paresseux. Je vous le dis avec tout l'amour de mon cœur. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et que Dieu a dit que son esprit nous aide dans nos faiblesses. Et si son esprit nous aide et que vous n'avez pas été aidé, c'est que vous n'avez pas sollicité son aide comme il fallait. Est-ce que vous me suivez? C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Tout le monde est logé à la même enseigne. Tout le monde a les mêmes possibilités. Nous n'avons pas tous les mêmes possibilités de prédication. Ce n'est pas l'appel de chacun. Mais nous avons tous la même possibilité dans la connaissance de Dieu. Il n'y a aucune raison pour que je connaisse Dieu mieux que vous. Aucune raison. Aucune raison. Je suis appelé pour prêcher l'évangile, mais pas pour connaître Dieu mieux que vous. Nous avons reçu le même esprit. Nous avons bu du même esprit. Et nous devons décider. Je suis fait pour Dieu. Je ne vais pas rater mon existence, vivre sur terre avec une connaissance lointaine de Dieu. Dieu est mort, se salue de loin. Il y a des chrétiens comme ça. Vous savez, il y a des gens, vous êtes intimes, vous voyez beaucoup. Il y a des gens, vous voyez de temps en temps. Il y a des gens, vous saluez de loin. Il y a des gens qui disent, Dieu, ce qu'on appelle en anglais, a passing acquaintance. Il y a des amis, friends and acquaintances. Il y a des amis, il y a des connaissances. Et entre les connaissances, il y a différents degrés de connaissances, n'est-ce pas? Et certaines connaissances, c'est vraiment très lointain. Et pour certains chrétiens, c'est comme ça avec Dieu. Et là, ça leur suffit. Ça leur suffit parce qu'ils sont bénis. Ça leur suffit parce qu'ils ont une grande maison. Ça leur suffit parce qu'ils ont des enfants. Ça leur suffit parce qu'ils ont un mari qui les aime. C'est parce que ça leur suffit parce qu'ils ont une femme qui les aime. Ça leur suffit parce qu'ils ont un bon job. Mais c'est une honte. D'aimer à ce point les choses secondaires au dépend de la chose la plus importante. Vous savez, il y a un passage dans la parole de Dieu qui m'interpelle concernant Ésaü. Il nous a dit que Ésaü était immoral. Vous savez pourquoi il était immoral? Parce qu'il a dédaigné son héritage. Et nous, on pense à immoralité, on pense que, oh, yo, le frère, paraît-il, il est sorti avec la femme de son armée. Ah, quelle immoralité, scandale dans l'église. Non, Dieu appelle immoral le fait de dédaigner notre héritage et de préférer un bol de lentilles à son héritage. Et beaucoup d'entre nous, nous avons échangé notre relation avec Dieu contre un bol de lentilles. Nous avons échangé l'intimité avec Dieu contre la réussite sociale. L'intimité avec Dieu contre le mariage avec un garçon qui n'aime pas le Seigneur. L'intimité avec Dieu contre quoi? Oui, tu connais ton péché secret. Glory to God! Un bol de lentilles! Et la prochaine fois qu'on fait une proposition malhonnête, regardez, ce n'est qu'un bol de lentilles. Je ne suis pas immoral. Je ne vais pas laisser de côté ma gloire d'enfant de Dieu. Mon intimité avec le Père. La capacité de vivre chaque jour en communion avec lui. Ça, c'est la première chose, tous les jours, qui doit faire partie de votre programme de vie. Parce que nous sommes faits pour lui. Vous pouvez ou non avoir une relation avec moi. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez ou non avoir une relation avec Flodio ici présente quand elle est réveillée. Ça n'a pas d'importance. Mais si vous n'avez pas une relation intime avec Dieu, c'est la partie majeure de votre vie qui est complètement absente. Et tout le reste ne prend son sens que dans la mesure où cette partie-là est vivante et réelle. C'est important de le comprendre. Et nous devons être interpellés par ce genre de sentiment exprimé envers Dieu. Je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire, car ton amour vaut bien mieux que la vie. Et il dit aussi, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps, même mon corps. C'est à ce point fort le désir que je ressens pour ta présence. Même mon corps ne cesse de languir auprès de toi. Après toi, mon cœur sera comblé comme un bon festin. Hey. Le corps nous sera rassasié de maigres succulents. Les maigres succulents. Combien de gens aiment les maigres succulents? Commencez à penser à tous les festins auxquels vous avez assisté. Surtout quand c'est cuisiné par certains frères que l'on connaît ayant certaines capacités culinaires. De temps en temps, quand ils pensent à moi, de temps en temps, quand son amour pour moi se réveille, il me propose un maigre succulent. Glory to God. Et là, je rentre à la maison, je dis, yes. Ah, on ne mange pas comme ça, on s'installe, on met la table. On va déguster des maigres succulents. Et c'est cette image qui est donnée pour que nous comprenions ce qui nous arrive spirituellement et dans notre âme lorsque nous sommes en intimité avec Dieu, en symbiose avec Dieu. Moi qui suis anglophone, j'étais toujours frappée quand j'ai commencé à apprendre le français de voir comment les Français aiment la nourriture. Et comment ils en parlent? Ils en parlent. Pour nous, c'est quelque chose d'étrange. Pour vous, c'est normal. Pour nous, c'était quelque chose d'étrange. Et mes amis anglophones, on parle encore aujourd'hui. Oh, quand même. Et on est à table. Et ils sont là. Et ils parlent de chaque plat. Et ça. On mange. Nous, on mange. Et c'est fini. Bon, OK, on a une certaine appréciation. Mais à ce point! Et on partage comment ça a été préparé et ceci. Et après, évidemment, le vin, n'en parlons pas. Et pour nous, c'est bon, d'accord. It's just food. It's just food. Mais non, it's not just food. C'est délicat, c'est appréciable. Et c'est beau et ça fait du bien à l'âme. Glory to God. Et les gens qui aiment, qui sont vraiment des connaisseurs, ils quittent une bonne table, ils ont une satisfaction, un sentiment de bonheur. un sentiment de bien-être. Un sentiment de bien-être. Et ce que le psalmiste essaie de nous faire comprendre, c'était la valeur de l'intimité avec Dieu. Que votre âme en est rassasiée. Votre âme est « Wow, Jesus !» Et vous êtes en train de dire « I love you, Lord. Ouf. And I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. » Que mon âme se réjouisse. Et c'est le fondement de nos vies. Notre schéma quotidien doit inclure prioritairement la communication avec Dieu. La communication avec Dieu. Prioritairement. La communication avec Dieu. Ésaïe 50, verset 4 nous dit ceci. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Ensuite, il nous a dit ceci. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Il éveille chaque matin. Dites chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme des disciples. Dieu veut chaque matin que nous soyons à l'écoute. Chaque matin. Et vous savez, si nous étions davantage à l'écoute chaque matin, nous aurons moins de prières de crise. Nous sommes spécialisés dans des prières de crise. Là où tout s'est effondré, et là, on est, ah, c'est ma danse, kahayo, boss. Oh, Jesus. Mountain move. Ah, c'est encore un chant nigérien. Mountain move. Non, pas nigérien, enfin, un chant anglophone. Et c'est all is done in Jesus' name. Là, c'est les muscles, l'énergie, la force et tout. Oh, mountain, quand c'est mountain move. Montagne bouge! Ah! Chaque matin. Chaque matin. Ne laissez même pas la montagne s'accumuler, n'est-ce pas? Chaque matin. Il m'éveille chaque matin. Ce n'est pas juste que moi, je viens chaque matin. C'est que lui-même exprime son désir de communion quotidien. N'est-ce pas? En m'éveillant chaque matin pour que j'écoute. Est-ce que ça vous pénètre? C'est l'action est entreprise par Dieu qui exprime son désir que ses enfants, ses serviteurs, soient à l'écoute chaque matin. Donc, il éveille mon oreille. J'ai la certitude que si chaque matin je me présente, mon oreille sera éveillée. Je serai en mesure d'entendre. Mais si je ne me présente pas. Vous avez déjà vu Dieu pour chasser les gens dans la rue? Mais viens, t'as pas prié. Viens, viens. Mais j'ai quelque chose à te dire. Non. Vous sortez, vous laissez vous en aller tranquillement. C'est, ah, je t'aime. C'est, ah, moi aussi, je t'aime. Pas le problème. On s'aime. Mais tu ne sais pas ce que j'avais envie de te dire. Tu n'as pas reçu ce que j'avais envie de te donner. Tu n'as pas assimilé le dépôt que j'avais envie de mettre en toi. Tu n'as pas été préparé pour ce pour lequel je voulais te préparer. Mais il sait que vous allez revenir. Parce que ce pour lequel on ne s'est pas laissé préparer, on va finir par revenir en larmes et en catastrophe. Éternellement Dieu, rendez-se, oh Dieu, hey Yaman, oh God, hey, tu m'aimes, ah, c'est toi qui m'as fait, oh God, oh, oh, ce flot, hein, pense à moi dans la prière, hein, intercède, hein, tu m'aimes, oh, frère, hein, 3 heures par jour, s'il te plaît, hein, sœur, toi qui es une intercesseuse, hein, est-ce que même cette église prie pour moi? Je vais chercher l'église où les gens prient. Pourquoi ça m'arrive, moi? Dites chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Il éveille mon oreille. C'est très fort. Ce n'est pas juste que moi je viens, c'est que Dieu est présent.
c'est que Dieu est actif et que Dieu a quelque chose à me dire. Chaque matin. Ce que Dieu est, notez ceci, ce que Dieu est, nous est révélé dans la prière. Ce que Dieu donne, ce que Dieu fait, nous est donné dans la prière. Glory to God. Glory to God. Woo! God is good. God is good. God is good. God is good. La proximité de Dieu est un rempart contre le péché dans nos vies. La proximité de Dieu est un rempart contre le péché dans nos vies. Nous sommes en train de voir pourquoi la communication quotidienne avec Dieu est essentielle, doit figurer dans notre schéma quotidien. Dans les semaines à venir, nous allons voir ce qui doit être partie intégrante de notre schéma quotidien, ce que nous faisons chaque jour. Vous allez ensuite ajouter des choses qui sont spécifiques à l'appel de Dieu sur votre vie. Est-ce que vous me suivez? La proximité de Dieu est un soutien puissant dans les moments difficiles. Quand vous connaissez l'intimité de Dieu, que vous traversez un moment difficile, parce que les moments difficiles nous viennent à tous, n'est-ce pas? Il faut surtout ne pas l'avoir provoqué soi-même. Mais il y a des moments difficiles qui arrivent, qu'on n'a rien fait pour les provoquer. Mais cette intimité de Dieu est quelque chose qui fait que vous allez sentir comme si les bras de Dieu vous entouraient. Comme si on mettait un manteau de protection autour de vous. Et là où les autres sont complètement effondrés, vous allez tenir debout. Beaucoup de personnes qui ne vivent pas dans cette intimité de Dieu au jour le jour, quand les difficultés de la vie arrivent, cherchent secours auprès de Dieu et ont l'impression de ne rien entendre. Se demandent si Dieu les entend, si Dieu les voit. Et sont là, et il faut d'abord qu'ils fassent la percée qu'ils n'avaient pas faite avant. Et qui d'abord deviennent conscients de la présence de Dieu pour maintenant recevoir le secours de Dieu. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait que Dieu est tellement présent. Nous n'imaginons pas à quel point Dieu est présent. J'étais bénie le jour où j'ai eu les nouvelles du décès de mon père. Le matin même, la présence de Dieu est venue sur moi. Sans être sollicité. Certains ont déjà entendu ce témoignage. Et j'étais envahie. Et par terre. Wow! Dans la présence de Dieu, je prie. Et j'étais là, wow! Et j'étais comme, wow, thank you, Jesus. Dieu m'avait enveloppé d'avance. Il m'avait entouré d'avance. Il m'avait rempli d'avance de sa présence. J'ai eu l'info par mon frère. C'est le même jour, la veille. J'ai eu l'info par mon frère. Et cette même présence était encore là. Et cette présence m'a porté. M'a porté. Des amis étaient venus le soir pour prier avec moi. Ouf! La présence de Dieu. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Dieu est notre secours et notre consolation en toutes circonstances et en toutes situations. Plus nous sommes proches de lui chaque jour, plus nous sommes en mesure de recevoir cette consolation quand nous en avons besoin, parce que nous sommes sensibles à sa présence. Nous ne sommes pas inconsolables. Vous savez, il y a un mot, on dit que les gens sont inconsolables. En d'autres termes, la détresse est extrême. Un enfant de Dieu ne peut pas être inconsolable parce que l'Esprit de Dieu est le consolateur. Et sa présence a une action réelle, effective sur nous. C'est une action effective, ce ne sont pas des mots d'encouragement. C'est une action effective qu'il opère pour amener la consolation, la paix et la joie dans des situations où on devrait être totalement désemparé. Et cela provient de cette vie d'intimité avec Dieu. Ou je dis toujours au Seigneur, Seigneur, je veux être tellement sensible à toi que si tu soufflais, je veux l'entendre. Vous me suivez? Et ce n'est pas quelque chose qui se produit au moment de détresse. Oh, Dieu! Il viendra, il veut parce qu'il est miséricordieux. Mais entretenant cette relation, c'est ce qu'il y a de plus important dans nos vies. La communication avec Dieu, c'est la priorité de notre existence. La deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle nous devons comprendre que la communication quotidienne avec Dieu est essentielle, doit figurer dans notre schéma d'action, c'est parce que la révélation nous vient de là. Et quand je parle de révélation, je parle en réalité d'information. La communication d'information. Même le monde fonctionne sur la base d'informations. C'est pour ça qu'on a les renseignements généraux, par exemple. On veut tout savoir pour savoir quelle décision prendre à votre égard. N'est-ce pas? On veut tout savoir sur ce qui se passe en Chine pour savoir comment traiter avec les Chinois. C'est la raison pour laquelle on a des événements tels que nous avons connus et nous avons appris que nous sommes tous espionnés. N'est-ce pas, par la NSA? Et j'étais étonnée que les gens aient été étonnés. On devrait quand même savoir. Tous nos appels téléphoniques sont écoutés, tout ce que nous faisons sur Internet est surveillé parce que les gens ont besoin d'informations. Informations pour traquer les terroristes et informations pour nous traquer. Tout est basé sur des informations qui peuvent être utilisées pour de bonnes raisons et pour de mauvaises raisons. Dieu a des informations à nous communiquer. Est-ce que vous le savez? Nous ne sommes pas censés vivre nos vies au hasard de ce qui nous arrive. Choisir un métier au hasard, des rencontres hasardeuses. Et tout se passe au hasard. On ne sait jamais, on va voir, ça va bon, on va voir peut-être. Et on prie après le hasard. Dieu veut nous communiquer des informations qui concernent nos vies, qui concernent ses projets, qui concernent ses desseins. N'oubliez pas, vous êtes l'idée de Dieu. Vous n'existez que par sa volonté. David a dit, il m'a tissé dans les reins de ma mère. Et celui qui est le fabricant a une intention première pour l'œuvre qu'il a fabriquée. Et très souvent, notre vision de ce que nous sommes est complètement changée par les informations que nous avons reçues d'autres individus et d'autres agents. Et ces informations sont souvent erronées ou contraires à ce que Dieu lui avait prévu. Nous parlons souvent de Jérémie dans cette église parce que nous aimons beaucoup Jérémie. Et Jérémie avait des informations sur lui-même. Il était prêtre, il venait d'une famille de sacrificateurs. Et c'était évident qu'il allait dans ce sens-là. Jusqu'au jour où Dieu s'est présenté pour lui donner d'autres informations. Et Jérémie, qui quand même connaissait le Seigneur, s'est quand même argumenté. C'est pour dire à quel point c'était totalement différent de ce que lui pensait. Et après, il a trouvé des prétextes et Dieu lui a confirmé que non. Toi, j'ai d'autres idées te concernant. Toute ta famille, c'est ça, mais toi, c'est différent. Et souvent, nous modélons nos vies sur nos familles. Oui, ma mère et ça, moi aussi je serai. Mais où mon père et ça, moi aussi je serai. Et il y a aussi des gens qui modèlent leur famille sur la base de l'échec de leurs parents. Ils ont comme une espèce de revanche à prendre sur la vie. Mon père n'a pas échoué à ça, n'a pas réussi à faire ça, mais moi, je vais y arriver. Ah oui, ma mère a toujours voulu ça, mais moi, j'ai la possibilité de le faire. Ça n'a rien à voir, vous êtes des personnes différentes. Et alors que Dieu lui-même a établi le sacerdoce dans cette famille, il en a sorti Jérémie. Dis-toi, j'ai d'autres plans pour toi. Est-ce que vous connaissez les plans que Dieu a pour vous? Toi, j'ai d'autres plans pour toi. Tu ne sauras pas ce qu'est ton père. Tu ne sauras pas ce qu'est ton frère. Toi, tu sauras autre chose. Dieu a des plans pour nous. Est-ce que nous les connaissons? Ou nos plans sont façonnés par nos parents. Ce qu'est mon père, ce que n'a pas été mon père, ce qu'est ma mère, ce n'a pas été ma mère. Ou moi, j'ai un oncle qui est ceci et moi aussi je le serai, mais j'ai une tante qui est ceci, moi aussi je le serai. Est-ce que c'est ce que Dieu dit vous concernant? Vous savez, quand on a une communication quotidienne avec Dieu, Dieu est en mesure de nous dire, lui qui est à l'origine de notre existence, ce qu'il avait à cœur nous concernant, ce qu'il a toujours à cœur nous concernant. Et en réalité, réussir sa vie, c'est vivre sa vie conformément au dessein que Dieu a établi. Conformément au dessein que Dieu a établi.
conformément à ce que Dieu veut dans son cœur. Ce n'est pas parce qu'il ne va pas m'aimer si je décide que moi, je ne vais pas annoncer l'évangile, je vais faire autre chose. Je vais vendre des chemises. J'aime beaucoup les chemises. Et j'aime beaucoup concevoir des chemises. Et quand je vais voir les gens qui confectionnent les chemises et je leur donne ce que je veux comme dessin, je leur dis quel tissu combiner. Parfois, au départ, ils argumentent avec moi. Et j'insiste et ils font ce que je veux. Et quand ça arrive, c'est « Waouh !» Et après, mon gars, vous avez du goût, oui, je sais. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce que Dieu a nous conduit. Donc, je peux décider que je vais passer ma vie à confectionner des chemises. Je ne vais plus prêcher l'évangile parce que je sais confectionner les chemises. Dieu va toujours m'aimer et aimer mes chemises. Eh oui. Il ne va pas faire en sorte qu'elles se déchirent. Il ne va pas faire en sorte que mes machines ne fonctionnent jamais. Et les gens pensent que si Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, il va amener la destruction. Non. C'est l'ennemi qui détruit. C'est l'ennemi qui détruit. Donc le fait que Dieu ne fait pas brûler mon usine ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce que je fais. Et on attend, si ça marche, c'est que c'est Dieu. Non, il y a des choses qui marchent et Dieu n'y est pour rien. Sinon, les païens ne feront rien qui réussit. Oui, mais on va voir. Si ça marche pas, on sait que le Seigneur n'est pas d'accord. Si ça marche, mais puisque ça marche, ça n'a rien à voir. On ne déduit pas la volonté de Dieu de par le fonctionnement ou pas de ce que nous faisons. Si les gens vous disent que si vous sortez de la volonté de Dieu, rien ne marchera pour votre vie, c'est faux. Il y a des choses qui vont marcher. Ce que Dieu veut ne marchera pas, mais il y a des choses qui vont marcher. Parce que l'ennemi va s'abstenir de vous embêter dans certaines choses pour que vous continuiez dans l'erreur. Et beaucoup de choses que les gens disent, ah, Dieu a béni, Dieu n'y est pour rien. C'est que Satan a cessé de s'opposer à vous parce que vous êtes maintenant d'accord avec lui. Nous ne jugeons pas si Dieu est dans quelque chose par le résultat. Évidemment, si Dieu y est, ça finira par triompher. Mais le fait que quelque chose marche ne veut pas que Dieu l'approuve. Vous plaisantez? Non. Regardez tout ce qui se passe au monde. Est-ce que Dieu l'approuve? Non. Non. La réussite d'une chose n'est pas la preuve de l'approbation de Dieu. Et j'entends tout ça depuis une vingtaine d'années que je suis dans l'Assemblée des chrétiens. Oui, mais tu vois ce qui s'est passé, gloire à Dieu. Alors que là, on savait pertinemment que le Seigneur n'était pas dans la chose. Et parce qu'ils ont l'enfer et que ça a marché, ils viennent témoigner que Dieu a béni. Non. Donc, ne jugez pas votre vie de par les résultats que vous obtenez. Nous avons une communication quotidienne avec Dieu, où Dieu nous parle. Dis, Dieu parle. Dieu nous révèle, il nous conduit, il nous montre ce qu'il veut pour nos vies. Il a montré à Jérémie, tu ne seras pas prêtre, tu seras prophète. Gloire à Dieu. Il a montré à Joseph, tu vas être le premier parmi tes frères. Il fallait le faire. Il était numéro 11. Numéro 11, s'il vous plaît. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, quand même, il y avait du monde. Et des grands gaillards. Il n'était même pas numéro 11, il était le 11e des frères. Est-ce qu'il était le 10e des frères? Il n'était même pas numéro 11, parce qu'il y avait des filles au milieu qu'on n'avait pas comptées. Il faudra que je recompte pour voir quel numéro il était. Mais lui et son frère étaient les deux derniers. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Est-ce que lui pouvait imaginer qu'il allait devenir ce qu'il est devenu? Qu'est-ce que vous êtes censé devenir que vous n'imaginez pas encore? Et que vous ne deviendrez jamais si vous n'allez pas écouter Dieu? Si vous suivez le témoignage de votre sang, ce que vos parents pensent, l'idée qu'ils ont de vous, je vous assure, dans ma famille, j'étais la dernière que l'on pouvait soupçonner de me devenir prédicateur. Je veux dire, aucun soupçon n'était permis me concernant. Celle qui était la plus têtue, celle qui avait toujours une opinion, celle qui se croyait trop intelligente, celle qui avait toujours quelque chose à dire, celle qui s'asseyait avec les anciens, les vieux pour discuter avec eux, celle qui rouspétait tout le temps, celle qui ne voulait jamais laver les assiettes. Enfin, je ne veux toujours pas laver les assiettes. Mais, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On a une certaine image et il y a des gens qui sont vraiment sympathiques, doux et agréables. On dit, ah, lui, là, vraiment, il est fait pour être pasteur. Et on les regarde, les grands gaillards. Et Samuel a regardé, il dit, ben, certainement, c'est celui que l'Éternel a choisi. Il dit, non, je l'ai rejeté. Wow. Heureusement que Samuel a écouté Dieu. Heureusement que Samuel était un homme de prière. Heureusement que Samuel était un homme qui était capable d'entendre la voix de Dieu. Il aurait oint Eliab. Et laissé de côté David. De toute façon, David ne pouvait même pas soupçonner. Si on lui avait dit qu'on était allé chez toi pour oint tes frères, il aurait dit, mais ce ne sera jamais moi. Ce ne sera jamais moi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est important pour nous de comprendre l'importance de la communication quotidienne avec Dieu. Pour recevoir les informations qui viennent de lui, qui sont nettement différentes des choses que nous imaginons. Des choses que nous supposons. Des choses que nous pensons. Parce que c'est quand nous ressaisissons de Dieu, quelle est sa vision pour nos vies, que nous commençons à changer pour nous adapter, que nous commençons à nous découvrir, à découvrir ce que Dieu a mis en nous que nous ne connaissions même pas, parce que personne n'a jamais fait appel à ce genre de choses en nous. C'est en ce moment-là que nous commençons à faire les ajustements nécessaires. Parce que si quand vous connaissez votre destination, et que vous savez que vous êtes censé aller à Lille, vous savez sûr et certain que vous n'allez pas prendre le TGV de Marseille. Et parfois, les gens sont là, Seigneur, est-ce que je dois prendre le TGV de Marseille? Oh, Seigneur, est-ce que c'est le TGV de Marseille? Ah, Éternel, parle à ta fille. Est-ce que c'est le TGV de Marseille? La question est de savoir, est-ce que tu vas à Marseille? Parce que si tu vas à Lille, ce n'est pas la peine de demander s'il faut prendre le TGV de Marseille. Et souvent, les chrétiens passent leur vie à demander, Seigneur, c'est le TGV de Marseille? Oh, Seigneur, parle. Où est-ce que je dois prendre le train qui va à Bonn? Oh Seigneur, mais où est-ce que tu vas? C'est ça la question première, n'est-ce pas? Si vous allez en gare, dites, dites-moi, est-ce que je dois prendre ce train? Est-ce que je dois prendre ce train, s'il vous plaît? Dites-moi si je dois prendre ce train, alléluia! Est-ce que je dois prendre ce train? Chef de gare, expliquez-moi. Est-ce que c'est mon train? Oh, dites-le moi, je veux le savoir. Oh, parlez, j'écoute. Je prends ce train ou je prends cet autre? Je prends ce train ou je prends l'autre? Oh, quel train! Oh, quel train! Est-ce que je dois prendre? Il va vous regarder, il va dire, mais vous allez où? Vous allez où? Enfin, je ne sais pas. Ah ben, je ne peux pas vous aider. Posez-vous la question, je vais où? Et c'est Dieu qui nous dit où nous sommes censés aller. Quelle est notre vraie destination pendant que nous sommes sur terre? Nous savons que notre destination finale, c'est la présence de Dieu. Ils iront au ciel. Vous irez-vous? Oui. Moi, j'y vais. Moi, j'y vais. Ah non, j'ai décidé. Il n'y a pas de destination. Oh, j'y vais. Mais pendant que je suis sur terre, quelle est la vision? C'est là où je découvre qu'est-ce que Dieu voit me concernant. Qu'est-ce que Dieu voit? Quelle est la vision de ma vie qui est sur le cœur du Père? Et c'est là où je vais savoir quel train je vais prendre. Quelles sont les actions que je dois entreprendre? Il y a certaines actions que je ne vais même pas demander. Vu que je sais que je ne vais pas là-bas. Donc, ça ne correspond pas du tout. Je ne demande jamais au Seigneur si je dois m'inscrire en faculté de médecine. Vous savez pourquoi? Parce que je ne vais pas devenir médecin. Et certaines questions que nous nous posons sont vraiment aussi simples que ça. Mais nous n'avons pas écouté. Mais nous allons écouter. Il y a quelque chose de très important que nous apprenons de la vie de Jésus. Le psaume 40 au verset 6 nous dit ceci. Ô éternel mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous et combien de projets. Quand vous lisez ce genre de choses, vous lisez, faites amen et vous passez? Non. Quand vous lisez ce genre de choses, attardez-vous un peu pour commencer à penser aux œuvres merveilleuses que Dieu a faites pour vous. Et combien de projets. Dieu a de projets. Ce n'est pas moi qui ai des projets nécessairement que je veux que Dieu bénisse. Dieu a des projets me concernant. Il a des projets pour moi. Et vous savez, quand vous connaissez les projets que Dieu a pour vous, vous avez beaucoup d'assurance. quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les personnes qui vous soutiennent, les personnes qui s'opposent à vous, vous savez que c'est le projet de Dieu pour vous et vous savez que vous arriverez à bon port. Quel est le secret de la persévérance, de l'endurance, de la foi? D'abord, commencer en sachant que ce projet, c'est le projet de Dieu. Non pas que vous avez concocté un projet, vous avez beaucoup prié. Nous, on prie beaucoup pour demander à Dieu d'agir contre sa volonté. Pas que j'ai concocté un projet, j'ai jeûné, j'ai intercédé, j'ai prié, et j'ai fait tout ça, donc je sais. Et quand il y a des problèmes, c'est... Oh, Seigneur, tu ne m'as pas abandonné. Non, je ne peux jamais demander à Dieu s'il m'a abandonné dans les choses qu'il m'a demandé de faire parce que c'était son idée. S'il arrêtait de les faire, ce n'est pas moi qui l'ai abandonné, c'est son projet qui l'a abandonné. Est-ce que vous me suivez? Et donc, je ne demande jamais à Dieu s'il a abandonné certaines choses parce que c'est lui qui en a eu l'idée. Il sait pourquoi il en a eu l'idée et il va faire ce qu'il y a à faire. C'est essentiel, essentiel d'obtenir cette vision de Dieu pour votre vie. Alors, ils disent aussi que d'œuvres merveilleuses soient faites pour nous et combien de projets. Nul n'est semblable à toi. Eh oui, je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Je veux vous inviter à méditer ces passages et à demander à Dieu de casser l'indifférence dans vos cœurs. Nous avons une génération de chrétiens totalement indifférents envers Dieu, qui aiment que Dieu a fait ceci pour moi, a fait ceci pour moi, a fait ceci pour moi, mais leurs cœurs ne sont pas enflammés pour le Seigneur. C'est une anomalie. Et c'est la preuve que vous vous êtes laissé complètement dominer par le diable. Si votre cœur n'est pas enflammé pour Dieu, nous ne pouvons pas être passifs ou être indifférent face à Dieu. Nos cœurs doivent être enflammés. Vous me suivez? Ce n'est pas quelques individus un peu illuminés qui sont là, oh Jésus. Ça, c'est là l'état normal d'un enfant de Dieu qui est rempli de l'Esprit de Dieu et qui a la révélation de Dieu. Et si on ne l'a pas, on demande et il donne. C'est ça qui est merveilleux. Il n'y a aucune parole qui est prêchée que vous, je ne le vis pas, donc je déprime. Non, je ne le vis pas, donc je vais le vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que le Seigneur m'a appris. Alors, quand je grandissais, et je grandis toujours, en écoutant un enseignement, je me dis, waouh, ça, je ne vis pas ça. Ah, Seigneur, je veux. Quand je lis la parole de Dieu, et quelqu'un dit à l'été, ah, moi, je veux. Ah, Seigneur, je veux. Ah, l'été, ah, je veux cette révélation. Oh, je veux cette connaissance de toi. Oh, je veux t'aimer comme cette personne t'aime. Un des points tournants dans ma vie, il y en a eu beaucoup, c'est quand j'écoutais une série d'enseignements. Je devais avoir 3-4 ans de conversion, pas plus. Et j'écoutais une série d'enseignements sur la guérison. Il y avait une vingtaine de cassettes, l'époque des cassettes, ça date. Une vingtaine de cassettes à peu près, je pense, ou peut-être plus, je me souviens plus du nombre exact, mais il y en avait beaucoup. Et la chose qui m'a frappée, c'était l'amour que ce serviteur avait pour la parole de Dieu. Et je savais que je n'aimais pas la parole de Dieu comme ça. Je n'avais pas le même amour. Et j'ai dit, Seigneur, je veux. Ce que tu as donné à cet homme, je veux. Je veux cet amour pour ta parole. Ça, c'est un aparté pour ceux qui disent, ouais, mais moi. Nous grandissons. Dites, nous grandissons. Je voudrais redire tes merveilles. Publier, redire tes merveilles. Mais leur nombre est trop grand. On a passé ce mois d'action de grâce. Et on a commencé à voir à quel point le nombre des merveilles de Dieu à notre égard est vraiment trop grand. Et la plupart du temps, nous n'en sommes pas conscients. Nous pensons que je voudrais faire la liste de mes problèmes, Seigneur, mais leur nombre est trop grand. Donc, occupe-toi de mes problèmes. Si je devais les détailler, il y en a trop. Alléluia. Alléluia. Amen. Faites-moi plaisir. Alléluia.
Amen.
Gloire à Dieu. Tu n'as vu ni offrande ni sacrifice, tu m'as ouvert l'oreille. Car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour expier le péché. Alors j'ai dit, écoutez bien, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, ta loi est gravée tout au fond de mon cœur.
Et ce passage a été cité concernant Jésus. Dans Hébreux, il nous a dit concernant Jésus que Jésus a déclaré, « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Hébreux 17. « Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus, ce psaume est donc un psaume messianique, a déclaré, « Voici, ô Dieu, je viens pour faire, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il y a deux choses ici que je voudrais que nous puissions noter. La première chose, c'est qu'il est écrit dans le rouleau du livre. La deuxième chose, c'est que le désir de Jésus était simple, faire la volonté du Père. Quand il dit dans le rouleau, il est écrit. En d'autres termes, j'ai vu les prophéties me concernant. Ta parole que tu as déterminée d'avance me concernant. Ce qui a été défini d'avance que je devrais accomplir. Donc, je viens pour les accomplir. Est-ce que vous savez que Dieu a défini des choses d'avance pour vous? Si Jésus a réagi de cette manière-là, combien même nous qui sommes censés être des imitateurs de Christ, pour dire qu'est-ce que j'ai vu dans la présence de Dieu, qu'est-ce que j'ai vu dans sa parole, qu'est-ce que j'ai entendu de Dieu dans les lieux secrets, qui a été écrit me concernant. Et la deuxième chose, c'est je viens pour faire ta volonté. Je viens pour les accomplir. Jésus n'a fait qu'une chose, faire ce que le Père voulait. Imaginez si Jésus avait été comme nous et qu'il a regardé la croix et l'a mis sur une balance et il a posé le pour et le contre concernant son propre bien-être. Parce que c'est sur cette base-là que nous prenons des décisions dans nos vies, n'est-ce pas? C'est sur cette base-là que nous choisissons nos actions quotidiennes, n'est-ce pas? Nous mettons la chose qui nous est demandée sur une balance. Nous voyons quel impact ça va avoir sur nous. Est-ce que ça va me prendre mon temps? Est-ce que ça va me prendre mon argent? Est-ce que ça va m'obliger de me lever tôt? Est-ce que ça va demander que je donne une partie de moi-même? Est-ce que ça va me prendre mes capacités? Est-ce que ça va m'empêcher de dormir autant que je veux? Est-ce que ça va m'obliger à faire plus que ce que je ne fais maintenant? Quel impact est-ce que ça va avoir sur moi? Et je juge la validité et la valeur de mes actions sur la base de ce qui m'arrange. Ça, c'est ne pas être un imitateur du Christ. Nous faisons ce qui arrange le Père. Nous faisons ce que Dieu a déclaré nous concernant et les choses qui sont conformes à sa volonté. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que vous ne soyez jamais dérangés. Ce n'est pas que vous ne soyez jamais inconfortables. La volonté de Dieu, ce n'est pas que vous soyez pépère à ne rien faire pour les autres. Non. Les chrétiens qui vivent comme ça, ils sont nombreux, vivent complètement en dehors de la volonté de Dieu. Nous sommes des imitateurs du Christ. Il est venu pour faire la volonté de Dieu et il a une grande souffrance pour lui-même. Une souffrance énorme que nous ne pouvons pas concevoir. Il a payé de sa vie pour que nous puissions avoir gratuitement le salut. La réponse naturelle à ça, c'est « me voici, je viens, conformez-moi à ce que tu as déclaré me concernant pour faire ta volonté. Et quel que soit ce que ça me coûtera, je ferai ta volonté. Quel que soit ce que ça me demandera, je ferai ta volonté. Quel que soit le changement que je devrais m'imposer, je ferai ta volonté. Quelles que soient les choses auxquelles je devrais tourner le dos, je ferai ta volonté. » Ça, c'est ce qui est dit par quelqu'un qui a compris l'Évangile. Qui a compris l'Évangile.
C'est effarant de voir à quel point les chrétiens n'ont pas compris l'évangile. C'est effarant de voir à quel point les chrétiens pensent qu'ils ne sont pas censés être des imitateurs de Christ, ils sont censés être des bénéficiaires des cadeaux de Jésus. Dites imitateurs de Christ. Je suis très frappée par cela. Jésus est la personne qui pouvait dire non, finalement non. Et avoir raison quand même, parce qu'il est Dieu, il a toujours raison. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si Jésus avait dit « je ne vais pas à la croix », il aurait eu raison, parce que Dieu a toujours raison. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Et celui qui a reçu son salut doit maintenant décider « j'ai pesé le pour et le contre, j'ai reçu le salut et je prends tout ce qui vient avec. » Glory to God. Et ce qui vient avec est bon. C'est bon. C'est pour cela que le psalmiste dit ceci, « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, car ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. » Donc, l'origine de notre vie, c'est Dieu. Le sens de notre vie nous vient de lui. La destination de notre vie, c'est Dieu. Je vais terminer avec ceci. Lorsque vous écoutez la voix de Dieu chaque jour, Dieu va vous communiquer sa vision pour votre vie. Lorsque vous écoutez la voix de Dieu chaque jour, Dieu va vous confirmer sur le chemin que vous avez pris, dans lequel il vous a conduit. Lorsque vous écoutez la voix de Dieu chaque jour, Dieu va changer la direction que vous voulez prendre. Il va vous dire, ce n'est pas là où je t'emmène, c'est là où je t'emmène. Lorsque vous écoutez la voix de Dieu chaque jour, il va vous permettre de résister à la pression de changer de cap. Et les gens vont toujours vous mettre la pression de changer de cap. Si vous êtes dans les affaires, il y a toujours une situation qui va se présenter qui vous mettra la pression pour changer de cap. Si vous êtes dans le ministère, il y a toujours des gens qui sont des envoyés du diable qui vont essayer de vous mettre la pression pour changer de cap. Il y a toujours quelqu'un qui veut vous faire changer de cap. Il y a toujours une situation qui veut vous faire changer de cap. Quand vous donnez votre vie à Jésus, il y a tous vos amis qui vous aiment, qui veulent vous faire changer de cap. Parfois, c'est votre famille qui veut vous faire changer de cap. Le fait de côtoyer Dieu chaque jour, avoir cette communication quotidienne, à chaque fois que vous en avez besoin, il va renforcer ce qu'il a mis en vous. Et le point central ici aussi, c'est la sensibilité au mandat de Dieu. Donc nous avons la vision, nous avons la direction. Il vous dit où aller. Il a dit à Paul, va en Macédoine. Et Paul était un homme de prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Paul était un homme de prière? Paul était un homme de prière. Il a écrit aux Corinthiens, il a écrit aux Thessaloniciens, il a écrit aux Éphésiens, il a écrit aux Colossiens, il a écrit aux Philippiens. Et il leur a écrit tous, il leur a dit, je prie pour vous non-stop. Je remercie Dieu pour vous non-stop. Et c'est bien non-stop. Non-stop, je prie pour vous, je remercie Dieu pour vous. Après, il leur a écrit encore pour lui dire, priez sans cesse. Remerciez Dieu en tout temps. Remerciez Dieu constamment. Et à cause de sa vie de prière, il était en mesure de suivre la direction que Dieu lui donnait. Quand il a eu la vision pour aller en Macédoine, il a compris ce que ça voulait dire. Il est allé en Macédoine. Et par la grâce de Dieu, l'Europe entière a été évangélisée. Votre écoute de Dieu est fondamentale. Lorsque vous êtes une personne qui côtoie Dieu régulièrement dans la prière, vous allez être comme Néhémie. Vous connaissez l'histoire de Néhémie? Qui connaît l'histoire de Néhémie? Néhémie est un homme qui était dans la cour du roi. Du roi de Perse. Du roi de Perse, à l'époque où Israël avait été amené en captivité. Et Israël était en captivité depuis un certain temps et Cyrus, un des rois de Perse, a eu l'idée, une idée que Dieu avait prévue des siècles auparavant, a eu l'idée de leur dire qu'ils pouvaient retourner dans leur pays. N'est-ce pas? Une cinquantaine d'années après, Esdras, qui était un scribe à la cour du roi Artaxerxès, a eu l'idée, lui, de retourner dans son pays. Mais il y a aussi eu un autre homme qui s'appelait Néhémie. Néhémie a entendu que les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Et Néhémie, qui était échanson du roi, a décidé qu'il devait faire quelque chose. Et la parole de Dieu nous dit que Néhémie a prié de cette façon. Écoutez attentivement sa prière. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment. Jour et nuit pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Vous voyez la prière de Néhémie, ce n'était pas uniquement pour lui, c'était pour son peuple. Combien de fois est-ce que vous êtes en train de crier, de jeûner devant Dieu pour votre communauté, pour votre église, pour votre famille, pour des gens autres que vous? Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Le résultat de la prière de Néhémie, c'est qu'il a pu aller vers le roi et il a obtenu la faveur pour retourner dans son pays, pour retourner à Juda, pour aider à la reconstruction. Ce qui est frappant dans l'histoire de Néhémie, c'est que Néhémie a entendu des nouvelles. Des nouvelles que d'autres, certainement, ont entendues. Mais Néhémie a une réaction différente des autres. Parce que Néhémie était sensible au cœur de Dieu. Lorsque vous côtoyez Dieu en prière chaque jour, vous allez acquérir une grande sensibilité. Dites sensibilité. Sensibilité. Vous allez acquérir sa perspective des choses. Et ça vient naturellement. Vous commencez à voir ce que Dieu voit et à voir les choses comme Dieu les voit. Et quand vous entendez des informations, vous ne réagissez pas comme les gens charnels. Et Néhémie l'a entendu, il n'a pas commencé à dire, mais ces gens horribles qui étaient partis là, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est pas possible, mais c'est n'importe quoi. Appeler les autres pour commencer à critiquer, condamner, discuter, discourir, comme nous faisons les chrétiens. Il y a un problème dans l'église. Oh mon Dieu, c'est quoi encore? Oh! Hey, Philippine, tu es en prière là? Il y a de quoi? Je vais te raconter. Nous sommes charnels. Néhémie a entendu qu'il y avait un problème. Il était sensible au cœur de Dieu. Néhémie s'est mis à jeûner. Il s'est mis en deuil. Il a pleuré devant Dieu. Il a crié à Dieu. Il a demandé à Dieu d'agir. Il s'est repenti pour le péché de son peuple. Et il a demandé à Dieu d'écouter la prière de son serviteur Néhémie et de tous ses autres serviteurs qui le vénéraient. Vous entendez? Tous ces autres serviteurs qui le vénéraient. Il y a une vénération de Dieu. Il y a un désir de servir Dieu. Il y a un désir de faire la volonté de Dieu qui est essentiel pour que votre voix résonne au ciel lorsque vous commencez à intercéder. Beaucoup de nos intercessions sont le résultat de nos critiques. Beaucoup de nos intercessions sont le résultat de notre mauvaise attitude. Quand nous avons fini de déchiqueter les gens, il faut qu'on prie. Dieu n'écoute pas ces prières-là. Parce que ce ne sont pas des prières qui sont faites par les gens dont les cœurs ont été brisés. Lorsque nous entendons qu'une sœur a chuté, est-ce que notre cœur est brisé? Ou est-ce que c'est « Ah! Je m'en doutais. Je savais qu'elle n'était pas clean. Je savais qu'elle n'était pas clean. » Changer de coiffure toutes les semaines, il faut le savoir, c'est charnel. Disons la vérité. On aime la sœur. On aime la sœur. Non, on l'aime avec l'amour du Seigneur. Mais soyons clairs. C'était à prévoir. C'est le pasteur qui n'est pas sensible. Non, c'était à prévoir. Ah! T'as mesuré ses jupes? Non. Non. Non, il faut la sainteté dans l'église. Nous pensons que Dieu écoute nos prières. Quand nous côtoyons Dieu chaque jour, nous devenons sensibles. Dites encore sensibles. Et ce qui brise son cœur brise nos cœurs. Nous voyons notre génération avec ses yeux. Nous voyons l'église avec ses yeux. Nous voyons le peuple de Dieu avec ses yeux. Nous voyons le besoin de l'église avec ses yeux. Notre indifférence disparaît. Et vous savez que tout ceci est à la base de nos actions. Le moment venu lorsque Néhémie a été confronté à la détresse de son peuple, il a été sensible. Dites sensible. Sensible. Il a été sensible parce qu'il côtoyait Dieu chaque jour. Je voudrais que nous puissions prier ce matin avant la fin de ce culte. Et que nous puissions demander à Dieu l'intimité et la révélation. Que nous puissions lui dire que nous voulons l'intimité et la révélation. La semaine prochaine, nous allons parler de la transformation et la capacité d'action. Je devais évoquer les quatre aujourd'hui. Il nous reste encore une heure. Vous êtes avec moi? Nous voulons, qui est-ce qui veut ici aujourd'hui? Une plus grande intimité, une plus grande révélation. Je veux savoir tout ce que Dieu sait me concernant.
Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Je ne veux pas deviner. Je ne veux pas imaginer. Je ne veux pas espérer que les choses vont bien se passer. Je veux savoir ce que Dieu sait. Toutes les informations dont j'ai besoin, je veux qu'il me les donne. Et Dieu n'est pas celui qui cache les choses. Ah, mais les voies de l'Éternel sont mystérieuses. Non. Non, nos voies sont mystérieuses. Here today and gone tomorrow, comme on dit en anglais. Je veux cette intimité. Je veux cette sensibilité. Je veux voir ma vie avec ses yeux. Je veux ne faire que ce que je sais que Dieu veut que je fasse. Jésus a dit, je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Je ne dis que ce que j'entends dire mon Père. Et nous sommes des imitateurs de Christ. Pouvoir nous tenir et dire ce que Dieu dit. Et faire ce que Dieu veut que nous fassions. Dans nos vies, nos choix, nos décisions. Parce que nous le côtoyons. Et que nous sommes en mesure de l'entendre, la communication, sa vision pour nos vies, les directions. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. En tant qu'individu, en tant qu'Église. Lorsque l'Église d'Antioche était en prière, Dieu a parlé. Dieu nous parle quand nous sommes en prière. Dieu nous parle à chaque moment. Il conduit son Église. Et parce que l'Église d'Antioche écoutait Dieu, ils ont entendu qu'il fallait préparer Paul et Silas. Paul et Barnabas, pour l'œuvre du ministère. Et si ces jeunes n'avaient pas entendu, s'ils n'avaient pas reçu les informations de Dieu, est-ce que Paul serait parti en voyage missionnaire? Est-ce que Barnabas serait parti en voyage missionnaire? Est-ce que Paul aurait été libéré dans son ministère? Indispensable pour nous d'entendre ce que Dieu sait. Que nous laissions réveiller chaque jour. Nous allons commencer à demander à Dieu. Nous voulons qu'il éveille notre oreille chaque jour. Mais la première chose pour qu'il puisse éveiller notre oreille, c'est que nous allons décider si oui ou non nous allons être présents chaque jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire aujourd'hui, ce que j'ai entendu ce matin me fait comprendre que je dois être présent chaque jour? Que les lignes de communication avec Dieu devraient être maintenues tous les jours. 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 Tous les jours, 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 tous les jours. Je le répète et je continue à le répéter jusqu'à ce que ça résonne en vous. Et que ça résonne en vous chaque jour. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il a toujours quelque chose à dire. Il a toujours quelque chose à dire. Alors pourquoi s'en priver? Si nous ne comprenons pas ces choses, si la prière pour nous, c'est juste une responsabilité, c'est juste une tâche, c'est juste quelque chose que nous faisons quand nous avons besoin d'aide. C'est que nous n'avons pas compris ce que c'est que d'être enfant de Dieu. Intimité, révélation. J'aime Dieu. J'aime Dieu et j'aime Dieu plus chaque jour. Et je veux l'aimer encore plus chaque jour. Et je ne veux absolument pas me priver de sa présence. En anglais, on dit it's addictive. On devient accro. On devient totalement accro. Et on est censé être accro. Si la communication avec Dieu ne vous manque pas et vous êtes capable de vivre tranquillement sans passer du temps avec le Seigneur chaque jour, je vous invite à la repentance. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas saisi. Parfois, c'est parce que vous n'avez pas su. Parfois, vous l'avez su, mais vous avez ignoré. Parce que vous avez aimé les bols de lentilles. N'est-ce pas? Et c'est parce qu'on nous parle tout le temps de l'avantage des lentilles. Et quand vous regardez la télévision, on ne vous parle jamais de votre héritage de chrétien, mais on vous parle des lentilles. Et on vous dit que c'est savoureux. Et on vous dit que vous pouvez les manger avec des lardons. Et on vous dit, oui, mais même des œufs.
Et on vous donne toutes sortes de recettes pour les lentilles. Et vous finissez par penser que la vie, c'est le bol de lentilles. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, non, c'est bon là, c'est fini tout ça. On met de côté le bol de lentilles. Je veux la présence de Dieu. Je veux connaître cette intimité. J'ai compris que ce n'est pas juste, Seigneur, fais ça, fais ça, fais ça. Mais donne-moi la paix, donne-moi la joie, donne-moi, fais en sorte que mon patron soit sympa avec moi. C'est plus que ça. Je veux, j'ai été fait pour toi. Augustin, Saint Augustin, tu nous as fait pour toi. Notre âme ne trouve de repos que lorsqu'il se repose en toi. Il a compris au 1er siècle, au 3e siècle de l'Église, au 4e, enfin. Nous devons le comprendre au 21e siècle. Vous n'avez pas de repos tant que vous n'êtes pas dans la pleine intimité de Dieu. Vous ne vivez pas pleinement votre vie chrétienne tant que vous n'êtes pas dans la pleine intimité de Dieu. Mais moi, je veux tout ça. Et que tous les choix, les actions de ma vie découlent de ce lieu secret. La perspective de Dieu, la sensibilité, la révélation, la compréhension de ce que Dieu voit quand Dieu me voit. Alléluia. J'attends votre réponse. Est-ce que nous pouvons prendre un engagement pour dire que nous allons chaque jour maintenir la communication avec Dieu. La communication, ce n'est pas 5 minutes, salut Seigneur, ciao. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de lui faire le salut et ciao à Dieu chaque jour. On va voir les autres éléments de notre schéma quotidien. Et on va comprendre qu'il faut organiser sa journée. Vous organisez vos journées. Et la priorité, c'est la communication avec Dieu. Tout le reste peut attendre. Tout le reste peut attendre. Tout le reste peut attendre. Si l'Éternel nous bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Beaucoup de choses sur lesquelles nous passons du temps, nous perdons du temps, parce que nous ne laissons pas l'Éternel bâtir. Nous ne lui donnons pas la place. Nous disons, oui, Seigneur, on a prié, oui, oui, non, mais chaque jour, dites chaque matin.
Chaque matin.
Et c'est là où nous sommes conduits. Il nous donne des informations, il nous révèle des choses cachées. Il nous dit avec qui traiter, avec qui ne pas traiter. Il nous dit qui croire et qui ne pas croire. Des gens viennent nous faire des propositions alléchantes. Dieu dit c'est un menteur. Parce que nous sommes sensibles. Nous ne jugeons pas uniquement par la raison humaine, nous jugeons par l'inspiration de l'esprit. Alléluia. 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 Mon désir pour vous, c'est cela. Que chacun de nous soit intime de Dieu. Que chacun de nous vive dans cette révélation, dans cette compréhension. Que chacun de nous reçoive toutes les informations dont il a besoin pour sa vie. Pour savoir dans quelle direction il doit aller, quelle est la vision de Dieu. Pour pouvoir choisir, pouvoir savoir quel chemin prendre pour accomplir cette vision. Pour pouvoir être sensible au cœur du Père et être impliqué dans les choses dans lesquelles Dieu est impliqué. Ne pas se tenir au loin de ce que Dieu fait, mais viens t'occuper de moi. Que nos cœurs soient brisés pour les choses qui sont importantes pour Dieu. Je veux cette symbiose avec Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, nous voici en tant qu'assemblée. Nous te disons merci, Papa, pour tous tes bienfaits envers Abba House. Nous en sommes chacun de nos bénéficiaires. Toute la grâce qui est sur cette assemblée est manifestée dans nos vies. Et ce matin, Père, en tant qu'assemblée, nous venons nous engager. Nous venons nous engager pour communiquer avec toi. Chaque jour. Chaque jour, nous allons être présents. Chaque jour, nous viendrons t'écouter. Chaque jour, nous viendrons te parler. Et la communication avec toi devient la priorité de nos vies. Parce que nous avons compris que ce ne sont pas des prières arides. Ce n'est pas non plus un fardeau.
Ce n'est pas non plus un fardeau.
Ni un poids.
Ni un poids.
C'est un honneur.
C'est un honneur.
De pouvoir avoir accès à toi.
De pouvoir avoir accès à toi.
De pouvoir recevoir de toi.
De pouvoir recevoir de toi.
Les informations dont nous avons besoin.
Les informations dont nous avons besoin.
Pour accomplir notre destinée.
Pour accomplir notre destinée.
Pouvoir partager avec toi,
cet
amour extraordinaire que tu as mis dans nos cœurs pour toi. Pouvoir recevoir de toi chaque jour le témoignage de ton amour. Cet amour que tu as pour nous,
qui est meilleur que tout,
qui est parfait,
qui est inchangé.
Et chaque jour, nous sommes encouragés.
Et chaque jour, nous sommes encouragés.
Dans ta présence.
Dans ta présence.
Nous sommes bâtis.
Nous sommes bâtis.
Dans ta présence.
Dans ta présence.
Nous partons gagnants.
Nous partons gagnants.
En chaque situation.
En chaque situation.
À cause de toi.
À cause de toi.
Notre Dieu.
Notre Dieu.
En tant qu'assemblée.
En tant
qu'assemblée. Abba House.
Abba House.
Décide.
Décide.
Qu'elle ne va plus abandonner. Le lieu de la communion.
Le lieu de la communion.
Le lieu de la prière.
Le lieu de la prière.
Chaque jour,
chaque
jour,
tu auras la joie
de voir tes enfants ici présents
venir dans ta présence,
communiquer avec toi,
t'écouter,
te parler, et faire ta volonté.
Nous
te remercions pour ta force.
Te
remercions pour ta sagesse.
Te
remercions pour ton esprit.
Te remercions pour ta
parole.
Accomplis ta volonté.
Et nous allons faire
ce pour lequel nous
sommes
sur terre.
Nous allons faire
ce qui nous a été affecté
comme responsabilité
dans le royaume de Dieu.
Nous allons accomplir
tous tes
desseins,
sans exception.
Dans le nom puissant de Jésus.
Amen.
Levez vos voix, commencez à louer le Seigneur. Remerciez-le. Remerciez-le ce matin, Yes, yes, yes. Our great God, we bless you. Remerciez-le. Avec anticipation.
Merci, Papa.
Oh, yes. Oh, yes.